d'Europe, animé par Jean-François Biardot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin.
Alors Daniel, au petit matin du mardi 21 juillet, après 4 jours et 4 nuits de discussions parfois tendues, le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé la conclusion par les 27 États membres d'un accord présenté comme historique. Et d'ailleurs, on a tellement aimé cette attitude de Charles Michel qu'on lui a consacré une rue à Limoges. Non, c'est pas le même. Vous me faites remarquer que la rue Charles Michel, dite encore rue de la soif, voilà. Donc, ouais. Donc c'est pas le même. Ça prend un S d'ailleurs. Alors, soyons sérieux, de quoi s'agit-il? Quel est cet accord?
Alors, l'accord porte sur deux volets articulés, un plan de relance post-Covid et le budget pluriannuel, en jargon CFP pour cadre financier pluriannuel, donc de l'Union. Le plan de relance est inédit par son ampleur, puisque le fonds de relance doit pouvoir disposer de 750 milliards d'euros sur 7 ans, et il est inédit par son financement, puisqu'il s'agit d'un emprunt de l'Union sur les marchés financiers, synonyme de mutualisation des dettes. Par rapport à la proposition de la Commission faite en mai et que nous avons évoquée dans une chronique début juin, le plan présente des différences non négligeables. D'une part, le volume des prêts remboursables par les pays bénéficiaires a été fortement augmenté, 360 milliards au lieu de 250 proposés par la Commission. Et celui des subventions, évidemment, fortement diminué, 390 milliards au lieu des 500 milliards préconisés par la Commission. Deuxième différence, les subventions feront l'objet d'un droit de regard des États sur l'utilisation qu'en feront les pays bénéficiaires. Le déblocage des fonds sera lié à la réalisation d'objectifs, avec possibilité d'en appeler au Conseil européen en cas de déviance du pays bénéficiaire par rapport à son plan national de relance. Le budget pluriannuel que le plan de relance abondera a été fixé à 1 074 milliards pour la période 2021-2027. Ce montant est moindre que la proposition initiale de la Commission européenne, 1100 milliards, et très inférieur au montant souhaité par le Parlement européen, 1300 milliards. C'est le résultat du refus de nature idéologique de quatre pays, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, dits pays frugaux, parfois dénommés aussi pays austères.
Parfois même... Daniel, je vous coupe. Dites les radins.
Les radins, effectivement. Mais moi, je suis moins irrespectueux que vous, Jean-François.
C'est Jean Quatremer qui a trouvé l'expression.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, refus de doter l'Union d'un budget important et de leur volonté de réduire leur participation au budget communautaire. Ils ont d'ailleurs obtenu une augmentation des rabais déjà en cours, amputant d'autant le budget de l'Union, ce dont plusieurs programmes européens risquent de faire les frais. Alors, peut-être Erasmus+, hein, pour l'éducation et la jeunesse. Peut-être Horizon Europe pour la recherche, peut-être Europe for Health, la santé, et peut-être le Fonds européen de la défense. Pour couvrir l'emprunt communautaire, la Commission européenne devra trouver des ressources propres. Mais à ce jour, hormis la taxe sur les emballages en plastique non recyclés, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain, les autres sources de revenus envisagées, à savoir un mécanisme carbone d'ajustement aux frontières et une taxe sur les géants du numérique, ne sont qu'à l'état de projet.
Alors, y a-t-il des leçons politiques à tirer de cet accord et de ce marathon bruxellois?
Alors, il y en a plusieurs qui méritent d'être soulignés, à mes yeux, les plus importants. Tirer de l'accord lui-même ce constat que le plan de relance fondé sur l'endettement commun marque à l'évidence une étape dans l'intégration européenne. S'agissant du marathon lui-même, deux remarques. Si le couple franco-allemand a mis tout son poids dans la balance et affiché durant les quatre journées une cohésion sans faille, jusqu'à tenir symboliquement une conférence de presse commune au sortir de la négociation, le groupe des pays frugaux, donc les quatre déjà cités, rejoints par la Finlande, a fait montre d'une résistance et d'une pugnacité qui ont surpris. La défense des intérêts nationaux a certes joué, mais la détermination de ces pays s'explique surtout par leur refus d'une intégration fédérale de l'Union. L'alliance qui s'est scellée autour des Pays-Bas, pays qui ne peut plus s'abriter derrière le Royaume-Uni comme il le faisait auparavant, risque de rejouer très vite. Deuxième remarque, bien que l'initiative de l'accord lui revienne, la Commission a peu pesé dans la négociation et la décision lui a largement échappé. L'intergouvernemental a effacé le pouvoir communautaire, mais l'épisode a aussi montré les limites d'un mode de décision fondé sur l'unanimité ce qui revient à conférer à chaque État membre un droit de veto. Le corollaire d'une telle règle en est le marchandage, avec les rabais par exemple, voire la solution rhétorique, comme l'attribution des fonds de relance liés au respect de l'état de droit, mais sans réelle possibilité de sanctionner le manquement du pays.
Alors, l'accord, c'est une belle chose, mais qu'est-ce qu'on peut dire de son application ?
Alors, l'accord historique, signalé comme historique du 21 juillet, pour entrer en application, doit franchir deux obstacles d'ici la fin de l'année. Le passage devant le Parlement européen s'annonce délicat. Si le Parlement a salué le principe du plan de relance, sur lequel il n'est pas appelé à voter, il a, par une résolution adoptée à une très large majorité, signifié que, j'ouvre les guillemets, il conteste l'accord politique sur le CFP 2021-2027 sous sa forme actuelle. Il en critique l'enveloppe insuffisante, les coupes importantes dans les programmes communautaires, le flou des ressources propres, le recul sur l'état de droit. Or, comme le stipule le traité, ça n'est qu'après l'approbation du Parlement européen que le Conseil adopte à l'unanimité le CFP. Donc un rejet du budget pluriannuel par le Parlement européen provoquerait par là même le gel du plan de relance. Dans une majorité de pays, 23 sur 27, le plan de relance doit être ratifié par le Parlement national. L'opération s'annonce compliquée pour plusieurs États membres. Les critiques essuyées à leur retour par les dirigeants des pays frugaux, accusés d'avoir trop cédé, laissent augurer de vifs débats. Dans les pays blâmés pour leur respect très limité de l'état de droit, la Hongrie, la Pologne, la tentation sera sans doute très grande chez les dirigeants de jouer sur la fibre nationaliste auprès des parlementaires nationaux. Alors, évolution copernicienne, une nouvelle manière d'appréhender les relations entre l'Union européenne et les États membres, a déclaré Charles Michel dans un entretien au Monde fin juillet 2020. Le propos est très optimiste. Mais rêvons un peu, Jean-François, si à l'automne, les citoyens européens se mobilisaient pour rappeler à leurs dirigeants que l'Union a une obligation de résultat et qu'ils en sont comptables, alors là, oui, il s'agirait d'une révolution copernicienne. Or, comme nous le verrons dans les prochaines chroniques, le citoyen européen a quand même pas mal de bonnes raisons de se mobiliser pour l'Europe.